Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de veau pour fortifier votre cœur, un morceau de pain, pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. » Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre, bon, et le donna à son serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à côté d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écouta l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon serviteur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? » En disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Là, je m'arrête pour la lecture. Je pense à plusieurs personnes. Vous direz que ce matin, on ne parlerait peut-être que des bleus. Des bleus. Donc, plusieurs personnes ont regardé les matchs qui ont lieu en Russie. Oui, c'est un dieu encore ce matin, encore le football. Au-delà du spectacle, de la comédie de certains joueurs, de ce que vous avez vu des replays à la télé, moi j'ai été interpellé quand même par deux personnes. Un supporter français dit ceci, qui est en Russie, je ne savais pas que les Russes étaient si accueillants et même joyeux. Pour lui, c'était une découverte. Les journalistes ont interrogé les Russes sur tous les 16 étrangers qui étaient sur leur sol. Et une femme russe dit, « Ils, 16 étrangers, nous apportent la joie. » Deux peuples qui ne se connaissaient pas et ils découvrent que l'un peut apporter la joie à l'autre. Oui, j'aimerais que nous parlions ce matin de l'accueil des autres. Peut-être certains me diront que c'était un jugement raté pendant un temps limité dans des circonstances joyeuses qu'ils ont pu dire certaines choses. Nous remarquons néanmoins qu'en accueillant l'autre, l'étranger, en essayant de le comprendre, cette femme russe ou ce supporter français ont découvert que l'autre avait des choses à lui apprendre. En accueillant l'autre sans suspicion, sans fortement porter des jugements, parce qu'il est différent, nous pouvons connaître des moments de joie. Même s'il n'a pas les mêmes habitudes que nous, même s'il n'a pas les mêmes coutumes que nous. En revenant dans le texte biblique, nous sommes frappés par l'accueil de ce vieillard, comme le texte le dit dans cette traduction, dans notre époque aujourd'hui, on dirait le troisième âge. Mais ce vieillard, Abraham, il accueille trois hommes qui passent devant sa tente alors qu'il fait chaud, très chaud. Était-il ici, était-il, comme le texte nous dit, était-il en train de se reposer pendant la chaleur du jour, bien sûr, après le repas? C'était un moment propice, bien sûr, pour somnoler, comme ça se faisait au Moyen-Orient, comme chez nous en ce moment. Après le repas, on ne pense qu'à une seule chose, somnoler. Mais Abraham aussi, le texte nous dit, Abraham était-il en prière? Vous savez, c'était un grand patriarche, quelqu'un qui avait eu des malheurs dans sa vie, qui avait connu des guerres, était au lieu de ressasser tous ses malheurs, peut-être se mettait toujours de côté pour prier. Chapitre 13, verset 18 peut nous montrer que ce lieu était devenu un lieu d'adoration à Dieu. En tout cas, ce que nous voyons, que ce soit un moment de repos qui était justifié au moment d'adoration, le texte biblique nous montre ici qu'Abraham courut vers ces étrangers. Il leva les yeux, regarda, voici trois hommes. Quand il les vit, il courut au-devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il les invita ici, le texte nous dit, il les invita avec insistance. Il ne mesura pas des risques en invitant ces étrangers. Oui, il y avait des risques. Ces gens étaient-ils peut-être de Sodome ou de Gomorre, avec leurs mœurs perverties, avec leur vie de débauche, accueillis de tels hommes? Ces hommes étaient-ils des ennemis de son peuple? Allait-il attaquer Israël à Jérusalem? Allait-il attaquer Jérusalem, qui est à 30 kilomètres? Ces personnes étaient-elles des ennemis de son peuple? Mais ces personnes étaient-elles des voyous qui pouvaient tuer les membres de sa famille la nuit en les recevant? Donc la question on peut se poser, c'est est-ce qu'Abraham était vraiment naïf en recevant ces étrangers de cette manière? La Bible nous appelle, chers amis, que nous sommes appelés à apprendre à accueillir l'autre. Accueillir, c'est le mot accueil, hospitalité. Dans la Bible, c'est presque synonyme. Utiliser deux termes pour dire la même chose. En tout cas, le texte biblique nous donne ici une meilleure définition de l'accueil de l'autre. De plus, elle nous montre qu'accueillir l'autre est une nécessité dans notre vie chrétienne. Et qu'au-delà du coût que cela peut engendrer, enfin, il y a des bénédictions qui en découlent en accueillant l'autre. L'accueil ou l'hospitalité d'Abraham envers l'autre étranger nous donne ici une belle définition de l'accueil. Voyons ici qu'il les reçoit sans aucun jugement. Il reçoit l'autre sans aucun jugement. Il les presse ici au verset 3, nous avons vu. Il les presse de venir chez lui. Venez chez moi. Il les presse, venez chez moi. Il s'empresse à mettre ces étrangers à l'aise. Nous sommes surpris ici. Le texte nous dit, il courut devant eux. Il alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit à Sarah, vite, vite. Il ne connaissait pas ces étrangers. Abraham courut à son troupeau et il prit un veau tendre et bon. Et dans son élan, même son serviteur se hâta de l'apprêter. Imaginez-vous cette course sous la chaleur. Mais vraiment, prenez le temps d'imaginer cette course sous la chaleur pour un homme de 99 ans, juste pour recevoir l'autre. Quel bel exemple. Il fait tout son nécessaire pour les mettre à l'aise, comme cela s'est pratiqué au Moyen-Orient. Quand on recevait des invités au Moyen-Orient, on apportait de l'eau, une sorte de bassine, ce qu'il a dit ici. On va chercher de l'eau. La portée de l'eau d'une sorte de bassine ou de cuvette pour se purifier. On disait se purifier tout simplement pour qu'il se lave les pieds. C'est quand il marchait, il faisait des longues distances, il n'avait pas toujours des chaussures fermées comme nous et les routes étaient souvent poussiéreuses. Donc le texte dit, s'il avait se purifié, c'était considéré vraiment, c'est juste se nettoyer les pieds. C'était considéré comme laver le corps de quelqu'un. Il le dit ici au verset 5. Je prendrai un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route. Je vous reçois juste pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuez votre route. Abraham nous montre ici l'esprit de l'hospitalité, comme elle se pratiquait au Moyen-Orient. Dans le Nouveau Testament, au cours des premiers siècles de notre ère, c'est l'Église de Rome qui se distinguait plus que tout autre par la générosité avec laquelle elle exerçait cette vertu. L'accueil, c'est une vertu. Dans son étude sur l'hospitalité chez les Grecs, les Romains, les Juifs et les Chrétiens, Gustave Talin, un historien, fait cette déclaration. Un des éléments les plus marquants du christianisme primitif, si riche en bonnes œuvres, est indubitablement son hospitalité. Au-delà des bonnes œuvres, ce qu'on peut retenir de l'Église du premier siècle, c'était son hospitalité. Les chrétiens du premier siècle accordaient une grande importance à l'hospitalité. Plusieurs auteurs néo-testamentaires comme Paul, Pierre, Jean et l'auteur même d'Épître aux Hébreux ont fait de l'hospitalité un commandement scripturaire, un devoir. Nous sommes appelés à recevoir l'autre. L'hospitalité, la Bible nous dit que l'hospitalité dans notre vie doit être vraiment une nécessité. C'est une nécessité de la vie chrétienne. Les exhortations bibliques à exercer l'hospitalité se trouvent presque toujours dans le contexte de l'amour fraternel. Je reçois l'autre comme amour fraternel. Tous les versets bibliques, je peux vous donner au moins une cinquantaine. Nous sommes appelés à exercer l'hospitalité en tant que vertu chrétienne. Nous sommes tous appelés à pratiquer l'hospitalité, quels que soient nos moyens financiers. Offrir une tasse de café à un frère de passage peut être considéré comme un accueil. Oui, l'hospitalité a un coût. L'accueil de quelqu'un empiète sur notre vie ordinaire. Cela nous amène souvent même à interrompre ou modifier nos différentes activités. Et cela peut engendrer des coûts financiers en recevant l'autre. Ce n'est pas une question de naïveté. Cela peut engendrer des coûts financiers. Et nous voyons ici, Abraham l'a fait. Abraham allait promptement dans sa tente vers Sarah et dit « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. » Il courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à son serviteur. Ce n'était pas prévu dans son programme, mais il le fit quand même. Un veau tendre et bon, je ne sais pas quelle valeur ça avait au niveau du marché à cette époque-là, mais ça avait une grande valeur. L'hospitalité peut être coûteuse et occasionner souvent des inconvénients parce que ça exige du temps, ça cause de la fatigue à la famille de l'autre. Oui, c'est une réalité. Mais l'hospitalité, nous le disons, je le redis, peut constituer une mise à l'épreuve. Notre amour pour Dieu et le prochain peut être éprouvé. Je cite ici Julien Pomer qui a inspiré Césaire d'Arles dans ses écrits monastiques, sujet ceci, qu'il est utile la plupart du temps de préférer la charité envers les arrivants à l'abstinence et aux jeûnes. Et c'est un sujet ici qu'on peut même arrêter les moments de prière pour s'occuper de l'autre, tellement c'est important aux yeux de Dieu. Abraham accepta le coup. Au nom du Seigneur, pour lui, l'hospitalité ne fut pas un fardeau, mais un bienfait de la part du Seigneur. L'apôtre Pierre nous exhorte, frères et sœurs, ce matin, exerçons l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Accueillons les autres avec la joie du Seigneur. Apprenons à accueillir même nos voisins, tous ceux qui pensent, tous ceux qui peuvent connaître la détresse. Nous sommes appelés à les accueillir. Des communautés dites chrétiennes qui ne sont pas ouvertes aux gens de passage, qui ne sont pas ouvertes aux nécessiteux, au monde, elle est amenée, ces communautés sont amenées à disparaître. C'est l'hospitalité, c'est une marque d'amour divin. Et si nous ne le pratiquons pas, que ce soit dans la communauté, que ce soit individuellement, nous séchons et nous disparaîtrons. La Bible dit ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et cet amour concret se manifeste dans l'accueil des uns des autres. Ce n'est pas un amour romancé, c'est vraiment l'amour concret dont parle la Bible, c'est d'accueillir les uns des autres. Donc nous sommes tous appelés, chers amis, à accueillir l'autre, nos voisins, accueillir l'autre, l'étranger. Il y a des bénédictions, termine là, il y a des bénédictions qui en découlent de notre obéissance. Nous voyons aussi au verset 9, chapitre 18 de Genèse. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Il y a ici, grâce à cet accueil, la confirmation de la promesse. Dieu confirme la promesse faite à Abraham et à Sarah, qu'ils auront bien une descendance de leur union entre Abraham et Sarah. Pas Abraham et l'esclave, non. Le Seigneur le confirme ici. Quand Abraham les a reçus, il ne savait pas que c'était le Seigneur. En entendant cette nouvelle, Sarah, comme Abraham, au chapitre 17, rit. Il n'attendait plus rien de la vie. Il n'attendait plus rien de ce monde. Mais la seule chose qui les préoccupait, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était de vivre simplement selon la volonté de Dieu. Mais grâce à cet accueil de ces étrangers, Dieu confirme sa promesse. Ils auront bien un fils. Et la confirmation de la promesse ici, mais ici, il y a aussi le renforcement même de leur foi. Plus nous vivons dans l'obéissance, la parole nous le montre, plus nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu, plus nous grandissons dans la foi. On peut connaître des phases de doute, des moments de tristesse dans notre parcours chrétien, mais Dieu voit l'état de notre cœur et voit les actes que nous posons. Il est aussi obligé ici de rappeler ça à ces enfants qui doutent, qui ont déjà, qui désespéraient. Dieu leur dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, je suis capable de tout. Ayez simplement confiance en l'Éternel. Vivez simplement pour le Seigneur. Combien de gens ont prié pour leurs enfants pendant des années, ont douté? Combien d'épouses ont prié pour leur époux, pour qu'ils viennent au Seigneur pendant des années? Un jour, le Seigneur se manifeste. Combien d'époux ont prié pour leur épouse pendant des années? Un jour, le Seigneur a ouvert le cœur de l'autre. La Bible nous dit que certains ont accueilli des anges en exerçant simplement l'hospitalité par amour pour le Seigneur. Il le dit dans Hébreux chapitre 13, persévérez dans l'amour fraternel, mais n'oubliez pas l'hospitalité, car en les aissant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Quelle bénédiction. Abraham fut béni. Ils ont ici découvert aussi la proximité avec le Seigneur. Ces personnes qu'Abraham reçoit, il ne sait pas si c'est le Seigneur et qui d'autre. Mais au verset 16, ici, chapitre 18, ces hommes se levaient pour partir. Ils regardaient du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Dieu nous parle, quelle bénédiction. Quand nous entendons la volonté de Dieu, quand nous entendons le Seigneur nous parler, Il a fallu qu'Abraham reçoive ces personnes pour se rendre compte que c'était le Seigneur et que le Seigneur lui parle. J'ai une mission, mais je voudrais que tu le saches. En lisant plusieurs fois ce texte, je me suis rendu compte que ce n'était ni les œuvres, ni même l'accueil qui a créé cette proximité, mais c'est l'obéissance simplement à la parole de Dieu. L'obéissance. Le désir de vivre dans la volonté de Dieu, le désir d'obéir à la parole de Dieu. Les bonnes œuvres ne sont que la résultante de ce que nous sommes. Ils étaient serviteurs et la servante. Oui, chers frères et sœurs en Christ, où en sommes-nous ce matin? Avons-nous pleinement ce vif désir de vivre pour le Seigneur? Je conclue par ces phrases. Les hommes politiques aiment bien citer cette partie du discours de Roca, ancien premier ministre français, qui a dit, nous, la France, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Bien sûr que cela est impossible, cela n'est pas possible. Mais ils oublient toujours la seconde partie de la phrase. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais nous pouvons prendre notre part. Oui, je pense que nous tous pouvons prendre notre part, accueillir l'autre. Accueillir l'autre, le Seigneur nous appelle, comme Abraham, à développer l'esprit d'accueil de l'autre et même souvent de nos ennemis. Le texte insiste là-dessus. Nous pouvons accueillir même nos ennemis. La parole de Dieu nous rappelle que nous étions des ennemis de Dieu. Nous étions des étrangers du royaume de Dieu. Mais il nous a accueillis dans son royaume. Lui nous accueille. J'aimerais lire ces versets avec vous, Éphésiens au chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 5, qui nous dit ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. L'apôtre insiste sur ce thème. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Devenons donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Quel est le but premier du chrétien? La plus grande vocation, c'est d'imiter. C'est d'imiter le Seigneur. C'est de vivre pleinement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Si c'est votre vocation, c'est votre désir de vivre pleinement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais nous voyons ici qu'au-delà du commandement, au-delà de ce qu'on peut trouver souvent dans les régions, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans le texte. L'obéissance à la volonté de Dieu, en accueillant l'autre, cela peut contribuer à notre épanouissement personnel. Je sais que certains parmi vous vivent déjà dans cette pratique d'accueil de l'autre et peuvent en témoigner de la bénédiction qu'on reçoit souvent quand on accueille l'autre. Je remercie le Seigneur pour notre assemblée et pour ceux qui donnent souvent pour que nous continuions à soutenir d'autres le mercredi, le samedi. Je dis gloire à Dieu. Donc la Bible nous dit continuons à accueillir l'autre. Mais si c'est encore aussi individuel, inviter d'autres chez soi, c'est encore une bénédiction. Mais pour d'autres, peut-être plusieurs d'entre nous, le Seigneur nous appelle ce matin que l'accueil de l'autre, L'accueil de l'étranger n'est pas une option. Matthieu nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, c'est le Seigneur qui parle, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de notre Père. Il dit, venez, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Mais les justes lui diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avoir soif? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Le Seigneur leur répondit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est vrai, quand vous lisez les commentaires, on parle de frères ici, il y a des frères spirituels, mais il y a des frères de l'humanité. C'est un commentaire à admettre aussi, il y a des frères de l'humanité. Le Seigneur nous dit, quand vous avez fait, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Accueillir l'autre, l'étranger au nom du Seigneur, c'est accueillir le Seigneur lui-même. C'est ce qu'il nous dit ici, dans Matthieu chapitre 25. Il y a des bénédictions, frères et sœurs, pour ceux qui pratiquent l'hospitalité au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, l'Éternel nous posera une question. Qu'avons-nous fait de nos dons? Qu'avons-nous fait de nos talents? Qu'avons-nous fait de nos richesses? Est-ce qu'on s'est contenté de s'enfermer dans sa tour, dans sa maison? Alors, chers amis, soyons accueillants comme le Seigneur nous a accueillis. Amen. Amen. Merci.